Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est vrai, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, en direct de la gare Saint-Sauveur de Lille, à l'occasion de la grande braderie de Lille. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à Lille aujourd'hui. Alors la braderie va commencer, bien entendu. Vous savez, c'est une manifestation absolument extraordinaire. Nous en parlerons tout à l'heure, mais pas seulement. Pour plagier Chateaubriand, je dirais ceci. Si vous n'avez pas, par un week-end ensoleillé, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui à Lille, si vous n'avez pas flâné dans les rues pavées du vieux Lille au milieu des parements de briques et des frontons sculptés entre les façades aux fenêtres soufflées et les courettes fleuries, si vous n'avez jamais grignoté une gaufre à la cassonade en écoutant le carillon de Notre-Dame de la Treille, vous ne savez pas ce qu'est la douceur de vivre. La capitale des Flandres est un havre, on pourrait le dire. Et notamment, c'est le cas pour beaucoup de Parisiens qui viennent ici flâner, qui viennent faire leur shopping. C'est un bon truc que je donne aux gens qui habitent à Paris, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à Lille. La ville, en ce moment, est en effervescence du fait de la braderie. Vous imaginez, avec 230 000 habitants, vous avez d'un seul coup, en 48 heures, pas loin de 3 millions de badauds, de promeneurs, de chineurs, de fêtards, de bradeux. Ils viennent aujourd'hui de toute l'Europe. Ils effraient un peu certains Lillois, si j'ai bien compris. J'avais les oreilles qui traînaient un peu ce matin et certains se disent « Oh là là, mon Dieu, mais quelle nuée nous arrive dessus ? On est là au milieu des tas de coquilles de moules et des ruisseaux de bière. On a l'impression qu'on ne reconnaît pas la Lille habituelle, celle de la Vieille Bourse et du Musée des Beaux-Arts, de la Grand Place et de la Citadelle. L'île flamande, bourguignonne, royale, industrielle, européenne. L'île qui a pris, me semble-t-il, le meilleur de Paris, le meilleur de Bruxelles, mais tout ça différemment et qui a surtout transcendé tous ces héritages. Alors il faut que je vous présente tous mes invités, je dis tous mes invités parce que d'habitude je n'ai qu'un invité quasiment, et là nous sommes 5 aujourd'hui pour vous parler de Lille. Vous connaissez bien sûr Lionel Gougelot, qui est notre correspondant ici dans la région, qui connaît Lille d'autant mieux qu'il y est né, si je ne m'abuse.
Je vous le confirme.
Un vrai Lillois, Lionel.
Ouais, depuis toujours.
Oui. Vous avez vu Lille changer, vous, c'est le mot
qu'on
puisse
dire. Oh oui, énormément, je pourrais vous en parler effectivement. Depuis les années 70-80, énormément.
Et même plus récemment encore, on va y venir dans un instant. Vera Dupuis, vous l'avez probablement vue à la télévision dans des émissions sur Lille. Elle est un peu la mémoire vivante de cette ville. Et nous allons, avec Vera, parcourir les siècles. Alors je vous dis tout de suite, Vera Dupuis, il va falloir chausser nos bottes de 7 lieues, parce qu'on a quelques minutes seulement pour parcourir plusieurs siècles, évidemment. J'ai demandé à Élodie de Vrière d'être avec nous aujourd'hui parce qu'elle connaît très bien l'histoire de Lille et notamment celle de la braderie à laquelle elle vient de consacrer un ouvrage. Entre parenthèses, tous les invités qui sont là aujourd'hui sont des auteurs Ouest-France. C'est assez bizarre puisque nous sommes dans le Nord, mais enfin, c'est comme ça. Et bonjour à Geoffroy Defrenne qui connaît également très bien la région, qui connaît Lille et qui s'est penché tout particulièrement sur cette histoire de la Première Guerre mondiale dans la région en général, et à Lille en particulier. J'y consacrerai un certain temps tout à l'heure parce que j'ai été le premier surpris, je dois le reconnaître. Vous savez, en 14-18, 3,5% du territoire français seulement sont réellement occupés par les Allemands. Et bien, il se trouve que Lille en fait partie et que cette ville, pendant 4 ans, a subi une occupation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas été plus tendre que celle de la Seconde Guerre mondiale. On y viendra tout à l'heure. Alors, Lionel Gougelot, qu'est-ce qui a changé à Lille depuis, vous avez quoi, 25 ans, vous, à peu près?
Oui, c'est ça, deux fois 25 ans. Tout a changé à Lille. D'abord, dans la physionomie globale de la ville, c'est une ville qui a fait l'objet d'un plan de rénovation des façades, d'embellissement à la fin des années 70, au début des années 80, avec l'embellissement de certains quartiers, comme le quartier du Vieux Lille. Et puis, à partir des
Vieux Lille, il est au niveau des plus belles villes flamandes, hein, il faut dire. Ça mérite, vous savez, quand on lit sur le guide vert, vaut le voyage. Là, en l'occurrence, ça vaut le voyage.
Ah oui,
parce que, vous savez, c'est pas toujours très bien connu. Moi qui suis du sud-ouest de la France, par exemple, quand on dit Lille, les gens pensent au nord, ils pensent au Coron, etc.
Exactement.
Ils ne savent pas qu'il y a ces splendeurs architecturales. Il faut le souligner.
Qui a fait donc l'objet d'un plan massif hein, d'embellissement donc à cette époque. Et puis à partir des années 80, il y a eu la modernisation, j'ai envie de dire la métropolisation de la ville de Lille, avec cet aspect justement métropolitain qui ressemble à la ville de Lille, mais aussi ce qu'on appelle le versant nord-est de la métropole Roubaix-Tourcoing, qui a fait de Lille, avec notamment le grand quartier d'affaires Euralille, créé par Pierre Mauroy dans les années 90, et bien cette grande ville internationale au cœur de ce que l'on appelle maintenant une euro-région. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça pour nos auditeurs, mais le fait est que Lille se trouve véritablement au cœur d'une grande région qui rassemble évidemment le grand nord-est de la France, mais aussi la Belgique, avec une influence presque jusqu'à Bruxelles finalement.
Alors Élodie de Vreyer, j'aimerais vous... Je vais parler un petit peu parce que je vois que vous êtes en train de boire un petit peu là, donc voilà.
C'est chaud dans le studio.
Je voulais vous demander si la braderie finalement n'était pas un peu un écran qui cache la véritable Lille. C'est très spécifique, ça a lieu une fois par an évidemment, et la ville est totalement en révolution.
Alors c'est vrai que la ville est en révolution, toute la ville se met à l'heure de la braderie, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a effectivement des Lillois qui quittent leur maison et qui la prêtent à des copains pendant ce week-end-là parce qu'ils ont un peu le sentiment d'une invasion sympathique. Mais je pense que justement, c'est peut-être ce qui fait son succès, c'est qu'elle est néanmoins, même si alors la ville ne se montre pas forcément sous son plus beau jour niveau propreté notamment, parce que voilà, il y a énormément de monde qui passe, mais je pense que c'est représentatif quand même justement de l'esprit lillois, à la fois l'aspect festif, et puis également un côté vraiment bon enfant qui perdure quand même, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde, vous l'avez dit, entre 2 et 3 millions depuis quelques années, et que néanmoins ça se passe vraiment bien. Il y a très peu par exemple d'interpellations,
oui, c'est
de
très méfaits, bon enfant,
c'est extrêmement
dire,
hein, c'est bon, enfant. Bon enfant, on s'y promène en poussette, et je pense que ça, même si bon, ça énerve un peu tout le monde, mais c'est pour dire que... Voilà,
c'est formidable et c'est fourmillant cette braderie, bien entendu. Ce n'est peut-être pas le moment pour venir visiter les monuments de Lille. Alors je vais vous poser la question qui énerve toujours les amateurs et les amoureux du patrimoine, Vera. C'est si on n'avait que 2 jours à passer à Lille, qu'est-ce qu'il faut voir absolument? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer? Quels sont les chefs-d'œuvre incontournables de la ville?
Et je crois que c'est très facile déjà parce que, comme très souvent dans une ville, quand on la visite, où commence-t-on? Sur la grande place.
Hein? Oui, ça
donc,
c'est...
à Lille, bien sûr, nous avons une très belle grande place, déjà entourée des plus belles maisons de la ville du XVIIe siècle. Et puisque tous les auditeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une belle ville flamande, eh bien, il suffit de penser à la grande place de Bruxelles.
Mais voilà.
Avec ses belles maisons.
C'est dans cet esprit-là, oui.
Exactement, c'est le même esprit, sauf que... Chez nous, à Lille, nous l'avons fait, cette même architecture, 50 ans avant. À partir de 1650, on commence à Lille à construire cette maison flamande avec ses jolis décors, des gueules de lions, des caryatides, des frontons, comme vous l'avez dit. Donc, on commence sur la grande place. Et là, d'un seul coup, on est envahi par plusieurs styles et on voit ce côté flamand, la maison flamande, et on découvre tout de suite les plus beaux monuments de la ville, qui est la vieille bourse.
Ah oui.
Incontournable, nos
quel
petits
rêve.
Marchands.
Surtout quand on aime les vieux livres, hein, c'est formidable.
Voilà.
Parce qu'il y a un marché aux vieux livres au milieu en plus. Hein.
C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est insoupçonnable, parce qu'on n'imagine pas que, comme le midi de la France, on peut avoir nous aussi des cloîtres, des hôtels où on rentre et on découvre.
Avec une histoire qui est là, partout présente, on va y venir à cette histoire dans un tout petit instant,
voilà.
Juste après la musique. Je vous ai dit, mais est-ce qu'il existe un compositeur qui soit né à Lille? Mais vous m'avez dit, ben comment? Il y a Lalo. Alors on va écouter Lalo, si vous le voulez bien.
Édouard Lalo sur Europe 1 avec un extrait de la Symphonie espagnole. Vous êtes toujours en direct et en public de la
oui.
gare Saint-Sauveur à Lille.
On va entendre le public
mais
de
oui.
la gare Saint-Sauveur d'ailleurs. Voilà. Il est venu nombreux. Alors, pourquoi ce nom de Lille, Geoffroy Desfrennes? D'où vient ce terme? Il y avait des îles autrefois ici?
En flamand, c'est Rigel, hein, donc le Lille, I-S-L-E, le mot du vieux français est plus présent dans le mot flamand. Donc bah c'est dû à l'eau, hein, bien sûr, on est une région de marécage. Paraît-il d'ailleurs que César n'avait pas réussi à conquérir cette petite partie de la Gaule parce que justement c'était des peuplades farouches qui se réfugiaient dans les marécages, qui faisaient ce que Vauban a fait plus tard d'ailleurs, qui profitaient de l'eau, des inondations pour empêcher les armées et demi de venir les ennuyer.
Contrairement à un certain nombre de célèbres villes du Nord, on n'a pas de canaux cependant ici. L'eau n'est pas présente dans la ville en fait.
Oui, on n'en a plus parce que d'une part il y a eu l'hygiénisme hein, comme partout. Il a fallu les assainir hein, puisque c'était les déversements des industries textiles notamment hein, du 19e. Et puis d'autre part il y a la voiture. Il fallait laisser la place à la voiture. Donc on a supprimé les remparts et on a supprimé les canaux.
Oui. Bon, mais tant pis.
Il y en a un peu encore. Hein. Il y a des projets de remise en eau.
Il a été question ouais. de rouvrir un canal, enfin, ce qui restait bras de canal dans le Vieux-Lille à l'occasion des élections municipales de 2008. C'était l'un des projets de Martine Aubry, mais ça a été finalement abandonné pour des raisons financières et budgétaires.
Ouais. En tout cas, c'est pas ce qui prive la ville de toute sa poésie. C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est sûr.
Depuis quand est-ce qu'on peut parler d'une ville constituée en tant que telle, Véra Dupuis?
Je crois depuis 1066, parce que comme toujours, pour définir la date d'une ville, il faut quelque chose d'écrit. Et nous avons une charte éditée par le premier comte de Flandre, Baudouin V, qui décrit justement dans cette charte de 1066 sa petite ville. C'est ça qui est fantastique. On la voit. Il y a d'abord les castrums, bien sûr. Là où vit le comte, c'est un modeste donjon sur une motte en terre.
C'est l'emplacement de l'actuel Vieux-Lille, en fait. Hein?
Exactement, à l'emplacement de Notre-Dame de la Treille, hein, la cathédrale. Et puis, il décrit très bien, il a déjà 3 paroisses. Bien sûr, la grande paroisse, la grande église Saint-Étienne, qui donne sur la place du marché. Il y a une deuxième église qui est Saint-Maurice. Et puis, il y a surtout, à côté de son donjon, dans les castrums, la grande collégiale Saint-Pierre, au lieu intellectuel.
Ah oui, là, ça a été, en quelque sorte, le nombril de la cité.
Tout à fait. Et comme toujours, vous savez bien, il faut des liens. Évidemment, vous l'avez dit, Geoffroy, nous sommes sillonnés par des dizaines de petits canaux, comme nos villes voisines, Bruges ou Gand, c'était exactement la même chose. Et donc, on enjambe les ponts et on a les voies pour relier les castrums avec les forums. C'est la rue de la Grande Chaussée. Et quand on appelait au Moyen-Âge une rue Grande Chaussée, ça veut dire tout simplement, elle n'est pas ensablée. Non, elle est pavée. Donc, quelque chose de bien carrossable.
Alors, cette ville, c'est la ville des comtes de Flandre, il faut dire, pendant très longtemps.
Ah oui.
Et des comtesses aussi, ça vient de là, quand on passe à l'hospice comtesse.
Oui. Oui. Là, c'est tout le romantisme d'un seul coup au Moyen-Âge qui surgit parce que, figurez-vous, deux comtesses de Flandre et de Constantinople. Ça étonne déjà qu'on puisse avoir un titre comme ça double, tout simplement parce que le comte de Flandre Baudouin IX était parti en croisade et couronné empereur à Constantinople en 205. Voilà. Mais au retour avec son épouse, il meurt. Et nous avons deux orphelines. Nous avons Jeanne et Marguerite, deux comtesses de Flandre, qui pendant 80 ans, presque un siècle, vont régner à Lille. Et vous connaissez peut-être tous, vous les Lillois, l'hospice comtesse, dans le Vieux-Lille, justement, où nous retrouvons cette grande salle des malades, cette ambiance du Moyen-Âge avec un mobilier. Quand on dit bahut flamand, quand vous dites ça, vous voyez tout de suite une petite armoire sculptée, travaillée, un peu noire. Eh bien, à l'hospice comtesse, vous avez cette ambiance flamande.
Et comment, bien sûr, il faut aller visiter ça, c'est merveilleux.
Ah, bien sûr, et puis il y a les tableaux.
C'est toute la douceur flamande.
Tableaux flamands. Et surtout, nous avons une galerie des comtes de Flandre, 24 petits tableaux qui vous racontent toute la vie. Des différents comtes de Flandre.
Alors, la dernière comtesse Marguerite, elle va épouser Philippe le Hardi. On est au XIVe siècle, là.
Oui.
Ce qui veut dire que l'île devient bourguignonne.
Oui. Étonnant.
Grand héritage.
Extraordinaire, parce qu'on ne peut pas imaginer cette Bourgogne à l'époque. C'est d'un seul coup 3 capitales. Dijon, Lille, Bruxelles. C'est une cour itinérante de 1000 hommes.
C'est le grand-duché d'Occident, comme on dit.
Ah, mais... le grand duc d'Occident, vous avez raison. Et surtout, c'est une cour, là aussi, d'intellectuels. C'est une cour qui aime les fastes. Et le plus représentatif, justement, le duc Philippe le Bon, grand duc d'Occident, il donne chez nous non seulement des grandes fêtes, mais il laisse aussi construire un nouveau palais, le palais Riour, parce qu'il trouvait que l'ancien palais des comtes de Flandre était démodé. C'est un peu comme aujourd'hui. Et puis, il construit grand, il fait quelque chose dans le style de la Renaissance, magnifique. Et puis, bien sûr, vous le savez, il a donné la plus belle fête de tout le monde occidental en 1454, la fête du vœu des faisans chez nous à Lille. Tous les chevaliers étaient là. C'est une fête qui a duré plusieurs jours.
C'est une sorte de film sur le Moyen-Âge qui a eu lieu là, avec
c'est du Disneyland,
les plus grands décors.
C'est du Disneyland.
C'était tout à fait extraordinaire. Des lys qui couvraient des hectares. Enfin, ça devait être tout à fait fascinant, hein, bien sûr. Bon. Et ça, c'était à Lille, justement. Alors, Lille n'est toujours pas française pendant tout ce temps-là.
Non.
Elle ne deviendra française, de gré ou de force, qu'en 1667.
Oui. Par la grâce de Louis XIV, parce que c'est vrai, entre-temps, toujours par héritage, tout s'est toujours passé très pacifiquement à Lille. Nous sommes devenus Pays-Bas espagnols via Charles Quint, qui avait une mère espagnole. Charles Quint naît encore à Gand. Et puis donc, arrive 1667, Louis XIV a épousé l'infante d'Espagne et il trouve quand même cette Flandre si riche doit revenir à la couronne de France.
Nous retrouvons Louis XIV à Lille dans un instant.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous laisser vos messages, poser toutes vos questions sur cette belle braderie de Lille par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand avec tous vos invités en direct de la gare Saint-Sauveur de Lille.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous êtes toujours Franck Ferrand en direct et en public de la gare Saint-Sauveur de Lille à l'occasion de la grande braderie.
Oui. Que vous entendez le public lillois qui est avec nous aujourd'hui. En cette veille de grande braderie, on va vous parler de la braderie dans un instant. Pour l'instant, on est au temps de Louis XIV. Qui dit Louis XIV dit Vauban. Et évidemment, Citadelle, la reine des citadelles, elle est ici, elle est à Lille. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que nos deux invités masculins ont fait l'un et l'autre leur service militaire dans cette citadelle. Qui s'y colle le premier, Lionel Gougelot?
Je ne sais pas, peut-être l'honneur au plus ancien. Le plus ancien. Moi, c'était en 1984, donc autant vous dire que ça...
Ah oui, c'était hier.
Ouais.
Moi, c'était la 78-10, hein, comme on disait à l'époque.
Elle est très belle, la citadelle, mais elle est peut-être pas très confortable, c'est ça.
Mais à l'époque, elle venait justement d'être rénovée, et moi, j'ai eu la chance, parce que j'étais à la compagnie de commandement. Bon, j'ai d'abord fait mes classes en compagnie de combat, mais
autrement dit, les planqués.
Compagnie de commandement, c'était dans l'arsenal, qui venait d'être rénové, qui était tout neuf. Et donc, on a eu le droit à des belles chambres toutes neuves, mieux que pendant nos classes. Et donc, je pense que j'étais mieux logé que Lionel.
Moi, j'étais pas logé du tout parce que j'étais en compagnie de combat et j'étais constamment en manœuvre, Franck.
Voilà.
Si ce n'est que, donc, cette citadelle, en fait, je ne la retrouvais que quelques jours par mois seulement pour y monter la garde, tout simplement, à l'entrée de la citadelle. Mais pour être plus sérieux, ce qui est étonnant, c'est que quand on passait ces
citadelle en forme d'étoile.
Oui, exactement.
À branches multiples, elle est absolument somptueuse.
Et à l'époque, elle abritait véritablement le 43e régiment d'infanterie avec tout ce que cela pouvait comporter de matériel, de véhicules, etc. Et on vivait, bon, c'est vrai qu'on vivait quand même une bonne partie de l'année dans cette citadelle. Et ce qui est un petit peu triste à dire, c'est que l'immense majorité des conscrits, comme on les appelait à l'époque, finalement n'avaient, aucune conscience finalement du trésor dans lequel ils étaient hébergés tout au long de ce service militaire. C'est peut-être au fur et à mesure et quelques années plus tard qu'ils en prenaient conscience.
C'est tout le paradoxe du monument qui, d'un côté, fait la fierté des Lillois et en même temps symbolise une certaine... Comment pourrait-on dire? Une certaine agressivité de la France, Vera Dupuis?
Une certaine puissance.
Puissance, en tout
cas. Une certaine présence, puisque les soldats sont à l'intérieur et la population lilloise sait très bien.
Moi, je pourrais vous parler des cachots, parce que vous parlez de Vauban.
Oui.
Les cachots étaient encore dans l'état de Louis XIV, de l'époque de Louis XIV. Et j'ai gardé, je me souviens là-dedans, des témoins de Jéhovah. Qui était forcément
qui refusait
de conscience, et en même temps des gars qui étaient des demi-fous, hein, faut bien l'avouer, comme on peut en trouver à l'armée, hein, des schizophrènes, etc., qui étaient dans les mêmes cellules. Et c'était quand même assez chaud quand on apportait les plateaux repas. Mais je peux vous dire que c'était vraiment, elles sont vraiment, je sais pas comment elles sont maintenant. Non, c'est des généraux de l'OTAN qui y sont, donc je pense qu'il n'y a plus de cachots. Mais c'était vraiment
un état... Ça a dû changer de standing, à mon avis. Alors, la ville, elle se modifie évidemment au XVIIe, surtout au XVIIIe siècle, avec le tracé des grandes artères, les somptueux hôtels particuliers. Il faut dire que c'est une ville de maisons. Lille, hein, c'est très important. Peu d'immeubles, beaucoup de maisons individuelles, même si certaines sont très étroites d'ailleurs, avec une façade sur rue qui n'est pas très importante.
Oui,
tout en hauteur souvent.
Oui, mais c'est ça la maison flamande. Elle est front à rue, puisque nous sommes dans une ville de marchands, vous l'avez compris. On aime les commerces, nous sommes doués. Depuis toujours, c'était le commerce de draps, il y avait les artisans, des teinturiers. Et donc, il faut avoir pignon sur rue. Et ce qui cache justement cette adorable maison flamande que vous dites étroite, elle est profonde.
Et voilà.
C'est ça qui est merveilleux. Il faut rentrer justement dans nos boutiques.
Elle est pleine de surprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, les boutiques qui ont été aménagées dans ces maisons sont un rêve, hein, il faut dire, sur
Je
plusieurs
pense
étages.
Aussi.
C'est vraiment...
Des cavernes d'Ali Baba.
Exactement. Et on a l'impression de découvrir à chaque fois encore de nouvelles choses. Il y a des recoins. Et puis toujours la vue sur les beaux jardins, etc. Au 19e siècle, la ville s'agrandit. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on est dans une ville qui va devenir une des principales cités industrielles.
Oui, c'est vrai, arrivent nos châteaux de l'industrie. Mais alors, pourquoi arrivent-ils à Lille? Nous étions, vous l'avez dit tout à l'heure, enserrés dans nos remparts et on regardait avec jalousie Roubaix et Tourcoing et les autres villes de la métropole d'aujourd'hui parce que là, partout, on pouvait installer des usines. Lille n'avait pas de place à l'intérieur des remparts. Donc, en 1858, Napoléon III fait un décret en disant « Vous pouvez démanteler et annexer 5 faubourgs qui sont donc Voisin, Fives, 5 faubourgs, ça triple la surface, ça double la population et pour relier les faubourgs, eh bien, on crée non seulement 120 km de rues et de larges rues, mais surtout, ce que nous n'avons pas du tout à Lille, des perspectives avec des places. Vous
et
savez
voilà,
bien,
bien sûr.
Alors, on a des églises, on a des théâtres, on a d'un seul coup des universités. Ça amène toujours une vue au-delà. Et surtout, comme au 17e, nous avons les goûts pour le décor. Et au 19e, avec les nouveaux matériaux comme l'émail, nous remettons la couleur et les formes. Parce qu'on fait des pastiches néo-byzantins, néo-gothiques, néo-renaissance. Ça veut dire que nos façades ne sont jamais ennuyeuses.
Oui, c'est d'une variété totale.
Oui.
Je confirme, Vera Dupuis, que vous avez votre brevet d'utilisation des bottes de 7 lieues, puisque nous sommes arrivés presque en 1914. Ça va être l'objet de mon récit dans un instant. Je vais vous raconter ces 4 années d'humiliation et de dureté qu'ont vécu les Lillois, donc d'octobre 1914 à octobre 1918.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire en direct de Lille aujourd'hui avec vous Franck Ferrand et vous nous contez Lille sous l'occupation pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant presque toute la Première Guerre mondiale, Lille est en effet occupée d'octobre 1914 à octobre 1918. Ça fait partie des rares villes de France qui ont été entièrement occupées comme ça par les Allemands pendant cette Première Guerre mondiale. Marie-Thérèse a 17 ans en 1914 et elle va écrire un journal. Elle tient un journal et sa fille, Paul Huard, publiera plus tard ce journal sous le titre 14-18, une famille dans Lille occupée, journal de Marie-Thérèse aux éditions Percé. Et évidemment, c'est une façon de vivre cette occupation de l'intérieur, avec tout ce que ça peut avoir d'assez terrible, évidemment. Voilà ce que nous dit Marie-Thérèse à la date du 24 août 1914. On est donc au tout début de la guerre. À 5h de l'après-midi, écrit-elle, Lille est déclarée ville ouverte. Pas un soldat ne peut donc rester dans cette ville qui, dans quelques jours peut-être, sera occupée par les Allemands. Il faut imaginer ce que peut être l'angoisse, bien entendu, et d'autant plus qu'on a très présent à l'esprit à l'époque le souvenir de la guerre de 1870 qui a laissé des traces assez cuisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mardi 1er septembre, dans le journal de Marie-Thérèse, « Nous attendons les Allemands toute la journée, nous les attendons, mais ils ne paraissent pas ». Mercredi 2 septembre, le lendemain, ce matin, une vingtaine d'Allemands ont envahi la mairie. Presque en même temps, deux officiers anglais viennent proposer de surprendre les Allemands dans l'île. Ça pourrait passer pour une bonne nouvelle, vous allez voir que ce n'en est pas forcément une. Le maire, qui leur a promis libre passage, refuse par loyauté de recevoir nos alliés. « Nous l'avons échappé belle », dit la jeune fille, « car si les Anglais étaient entrés, nous aurions eu la guerre de rue. » Et ça, ce n'est pas drôle. Non, effectivement, ce n'est pas drôle. Le jeudi 3 septembre, « Le nombre des Allemands augmente peu à peu, écrit-elle. Ils arrivent par cinquantaines et gardent les abords de la mairie et de la préfecture, mais ils ne nous gênent guère. Une seule chose nous préoccupe, c'est de savoir pour combien de temps ils ont élu domicile ici. Et on va voir très vite fleurir des affiches mi-allemandes, mi-françaises qui sont placardées sur les murs. L'occupation de la ville ne commence véritablement qu'en octobre, à l'issue de ce qui se révèle être le 8e siège de Lille. Cette ville aura été assiégée à 8 reprises dans son histoire. Lundi 12 octobre dans le journal de Marie-Thérèse. Cette fois-ci, c'est pour nous. Un formidable éclatement doux et prend toute la maison et nous donne l'impression qu'un étage s'est écroulé au-dessus de notre tête. Nous en sommes quittes pour des carreaux cassés dans les 4 chambres de façade, mais l'odeur de poudre est répandue partout. Tout près de chez nous, un platane est renversé, il barre presque le boulevard et a cassé un fil du tramway. Ce sont ce jour-là quelques 1000, peut-être même 1200 immeubles qui sont tombés, 200 civils seront retrouvés morts. Le 13 octobre, les Allemands entrent dans la ville. À ce moment-là, on peut parler vraiment d'une occupation qui va durer, à partir de ce 13 octobre 1914, qui va durer 1465 jours. Occupation que les contemporains ont considérée comme un véritable calvaire. Alors, dans un premier temps, et c'est très symbolique et c'est très fort, dans un premier temps, on fait vivre la population à l'heure allemande. Quand je dis à l'heure allemande, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on se met à l'heure de l'Europe centrale, c'est-à-dire que désormais les Lillois auront une heure d'avance sur l'heure française. Interdiction, bien sûr, de faire flotter fanions et drapeaux, de faire sonner les cloches des églises, de se réunir à plus de 6 personnes. Il est défendu, je cite les arrêtés de l'occupant, sous peine de mort, de lancer des dirigeables, des aéroplanes, des ballons montés ou vides, de lâcher des pigeons voyageurs. C'est fondamental, ça c'est toute la question de la correspondance et c'est peut-être ce qui est, avec la nourriture bien entendu, ce qui est la préoccupation principale des Lillois de l'époque, c'est pouvoir correspondre, pouvoir entrer en contact avec l'extérieur. Pas de pigeons voyageurs bien entendu, rien. Interdiction d'installer des appareils radio-télégraphiques ou de s'en servir, de faire des signaux optiques, de faire sonner les cloches, etc. etc. Il y a une relève de la garde tous les jours à 11h. Les écoles, les facultés, les usines sont réquisitionnées pour la troupe qui d'abord a été logée chez l'habitant. Et comme ce qu'on va voir alors là dans toute la zone occupée à partir de 1940, de la même façon, on voit l'occupant réquisitionner des salles de spectacle, de cinéma, le Grand Théâtre par exemple qui est réquisitionné, mais aussi des magasins de luxe. On en parlera tout à l'heure à propos d'une célèbre pâtisserie-confiserie lilloise. En fait, il y a une sorte d'installation dans l'île qui devient une zone même de séjour pour un certain nombre d'officiers allemands. Plus de journaux libres, ai-je besoin de le préciser. Correspondance interdite, je vous l'ai dit. Voilà alors ordonnance de février 1915, il est défendu sous peine de mort aux habitants du territoire occupé par les armées allemandes d'entretenir n'importe quelle correspondance entre eux ou avec des personnes habitant en France ou à l'étranger. Interdit à toute personne, évidemment, également de circuler sans des laissez-passer spéciaux, même pour aller simplement dans la banlieue ou même dans certains faubourgs de Lille. Alors, au-delà des libertés personnelles, c'est l'activité économique qui est paralysée. L'Allemagne va ordonner des prélèvements sur le budget de la ville. Très tôt, dès novembre 1914, la ville est condamnée à payer 7,5 millions de francs, comme une sorte de rançon d'une certaine manière. Il faut bien les trouver quelque part. C'est très dur tout ça. 7 novembre, Marie-Thérèse, nous retrouvons son journal. Nous recevons un appel du maire demandant de déposer des billets de banque pour le paiement de la contribution de guerre, écrit-elle. Cet appel a été affiché dans toutes les rues de Lille. Notre pauvre maire n'est pas à la fête en ce moment. Il y a également réquisition, je vous l'ai dit, de certains lieux, mais aussi réquisition de main-d'œuvre pour soit des corvées ponctuelles, soit des travaux agricoles ou en usine, des travaux de fortification aussi, réparation de routes, de voies ferrées, etc. Ça devient une occupation extrêmement dure. Le 20 février 1915, c'est un samedi, voilà ce qu'écrit Marie-Thérèse. Les Allemands commettent des atrocités. Ils font enterrer les leurs, mais par des civils français. L'un d'eux, qui était chargé de verser de la chaux sur les corps, a vu un blessé trop gravement atteint pour guérir, passer la main sur son front afin d'enlever le liquide indicateur de mort. D'autres suppliaient qu'on les épargnât. Ceux qui ont vu de pareils spectacles ne les oublieront jamais. On est là dans le témoignage, dans un oui-dire, évidemment, d'une personne qui souffre. Il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais c'est pour vous montrer l'atmosphère qui règne et cette espèce d'ambiance extrêmement lourde, bien entendu. On choisit parmi les notables, parmi les élus, un certain nombre d'otages. Le quotidien est extrêmement difficile. Alors la nourriture est rare, elle est mauvaise évidemment, le pain est carrément infect. Il est absolument certain que dans la farine de seigle qui sert à faire des mélanges, écrit Marie-Thérèse, il y a 15% de seigle et le reste de plâtre ou de toute autre matière analogue. Et évidemment, tout ce qu'il y a d'un peu bien s'élève à des prix complètement fabuleux. Cette semaine a été terrible du point de vue de la nourriture, écrit-elle le 18 février 1916. Le ravitaillement américain arrive difficilement. La viande de cheval monte à des prix fabuleux. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter, bien entendu, les bombardements vers la fin de la guerre qui vont se multiplier. Mercredi 6 septembre 1916. Il est tombé cette nuit 4 bombes d'aéroplanes. C'est vraiment terrible de penser chaque fois que l'on se couche et que le lendemain, on ne se réveillera peut-être pas. L'île va connaître, nous allons en parler bien sûr dans un instant, l'île va connaître ses héros également. Il va y avoir une véritable résistance, je pense à Louise de Bettigny, on va parler d'elle tout à l'heure, qui dirige à partir de 1914 un vaste réseau de renseignements pour le compte des Britanniques. Sous un nom de couverture, elle se fait appeler Alice Dubois. Elle sera arrêtée, condamnée à mort le 19 mars 1916. Sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Elle sera emprisonnée dans des conditions épouvantables, trimballée d'une prison à l'autre. Elle décède à l'hôpital de Cologne le 27 septembre 1918. Elle n'aura même pas vu la fin de la guerre. Parlons peut-être aussi de Léon Trulin, qui signait d'ailleurs sous un pseudonyme qui était l'anagramme de son nom, Noël Lurtin. Il devient lui aussi informateur des Britanniques. C'est lui qui crée le réseau Noël Lurtin. Il sera condamné à mort le 5 novembre 1915. Il a 18 ans alors et il écrit de sa cellule « Je meurs pour la patrie et sans regret ». Simplement, je suis fort triste pour ma chère mère et mes frères et sœurs qui subissent le sort sans en être coupable. Il sera fusillé dans l'enceinte de la citadelle le 8 novembre 1915 avec Eugène Jacquet, Silver Verhulst, Ernest de Coninck, Charles Martins. Tous, au moment où ils sont attachés au poteau d'exécution, vont chanter « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau ». Et tout ça, toutes ces souffrances, toutes ces atrocités, tout ça va durer 4 années. Enfin, le jeudi 3 octobre 1918, le bruit commence à courir que l'évacuation de l'île va se produire, soit totale, soit partielle. Voilà ce qu'écrit Marie-Thérèse. « C'est ce qui m'effraie le plus vers 6 heures du soir », écrit-elle. La réponse, c'est parce qu'on va faire sauter les ponts. Les Allemands quittent tous les quartiers de la ville. Aujourd'hui, on a enlevé le phare du Sacré-Cœur. Il nous est impossible de nous imaginer que... dans 8 jours, peut-être avant, nous serons Français. Tant de fois nos espoirs ont été déçus. Et voilà que le 17 octobre 1918, carillonnent les cloches de Notre-Dame de la Treille. Tous les Lillois sont dans la rue, écrit un autre témoin de l'époque. Ils se sont massés le matin sur l'immense place de la République, en face de la préfecture, pour attendre avec impatience leur libérateur. Nous avions tous les petits drapeaux tricolores à la main. Les sapeurs-pompiers de Lille jouent l'hymne national anglais et bien entendu la Marseillaise, et Marie-Thérèse n'a qu'un mot. Quel soulagement! Alors, vous avez vous-même, il faut dire que vous avez vous-même, Geoffroy Defresne, écrit un ouvrage sur les sites de la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. Vous connaissez bien cette période. Les Lillois ont souffert à l'époque.
Oui, alors... vous parliez tout à l'heure du refus de laisser les Anglais attaquer les Allemands. Il faut bien préciser que Charles de Lussalle, qui est le maire de Lille à l'époque, n'est pas un lâche, pas plus que les Lillois. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait aussi que les Allemands ont commis des atrocités en Belgique.
Voilà, c'est ça, bien sûr, oui.
Et donc, on a peur qu'il se passe la même chose. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas accepté que les Belges leur résistent, parce qu'ils avaient espéré la neutralité de la Belgique. Et donc, on craint tout simplement des massacres de populations civiles.
Je parlais des réquisitions. Il y aurait énormément d'anecdotes à raconter. Il faudrait peut-être parler de ce qui s'est passé chez Mer certain qu'il y ait la grande maison, évidemment, de luxe ici à Bruxelles.
À Lille.
À Lille, Bruxelles, Paris. À Lille, pardon.
Et à Lille et deux boutiques à Paris maintenant. Oui, avec les fameuses gaufres. Non, ce qui se passe, c'est que les Lillois sont obligés de donner, ça s'est passé la même chose dans la Seconde Guerre mondiale, hein, tous leurs métaux. Donc la vaisselle, notamment de l'époque, et donc pour protéger les ustensiles qui sont très précieux pour faire les pâtisseries, Madame Cardon, donc la propriétaire, demande à un de ses employés de partir tôt le matin avec une charrette pour tout enfouir dans les fossés de la citadelle. Mais il se fait prendre par une patrouille allemande. Madame Cardon est arrêtée, elle est emprisonnée. Comme elle est malade, il la libère, mais elle paie une forte amende et elle s'en sort bien parce que certains à l'époque étaient fusillés pour moins que ça.
Eh oui. Le symbole de la délivrance, après le départ des Allemands en octobre, la signature de l'armistice en 18 et la paix de juin 1919, ce sera la première braderie à rouvrir, si je puis dire, en 1919. Cette braderie qui reprend possession de la ville, sauf qu'après 4 ou 5 ans de privation, évidemment, il n'y a plus de vieuserie à vendre. Eh bien, tant pis, on s'en passera. Cette braderie de Lille qui existe depuis le XIIe siècle, nous y venons dans un instant. Ça s'imposait, le petit quinquin, à Lille, évidemment. Lionel Gougelot lève les yeux au ciel.
Ah non, pas du tout.
Est-ce que la braderie a changé aussi, comme le reste, Lionel Gougelot, dans les derniers temps, là?
Qu'est-ce que vous entendez par les derniers temps? Oui, évidemment, depuis les années 60-70, c'est vrai qu'elle a pris une autre dimension. Dans les années 60-70, peut-être même les années 80, elle gardait quand même elle était tout aussi immense, mais elle n'avait pas peut-être la même connotation. Elle avait peut-être une connotation plus familiale, moins commerciale. Et c'est vrai qu'elle est devenue, au fil des ans, un événement international, à tel point que c'est devenu l'un des principaux atouts touristiques et d'attraction touristique de la ville de Lille et plus généralement de la métropole lilloise. Alors avec certains excès, effectivement, que l'on peut déplorer, notamment d'un point de vue strictement commercial, peut-être l'abandon d'une certaine tradition, d'un certain état d'esprit familial, de vide-grenier, mais toujours, malgré tout, ce rapport à l'histoire, puisque finalement, les objets, les vieux objets que l'on vend, ce sont des objets qui ont une histoire. Et autour de ces objets se racontent dans la braderie des histoires entre les chineurs et les bradeux. Et c'est aussi ça qui fait le charme de la braderie. Et ce charme persiste. Oui. Je le maintiens.
Ah oui, vraiment. Et alors, ce qui est très étonnant quand on feuillette le petit ouvrage « La braderie, une histoire lilloise » d'Élodie de Vrayère, avec une préface de Martine Aubry, c'est l'espèce de permanence que l'on observe de gravures en photographie, de tableaux en évocation très contemporaine. C'est bien la même atmosphère. Et pourtant, cette braderie, elle puise ses racines dans une très vieille foire, une foire médiévale.
Voilà, alors comme Vera Dupuis l'a dit, c'est vrai que Lille était une ville vraiment de tradition marchande. Et effectivement, la première mention de la braderie, on la trouve dans un texte du XVe siècle. Ce sont deux commerçants, en fait, lillois, qui sollicitent l'autorisation de vendre devant chez eux, de faire, je cite dans le texte, hein, l'ordonnance de l'époque, de faire leur braderie ou rôtisserie devant leur maison.
Donc braderie, ça vient de là, le mot.
Ça vient de rôtir, enfin, c'est en tout cas la...
Brader, c'était rôtir au départ.
C'était rôtir au départ. Et pourquoi est-ce qu'ils sollicitaient cette autorisation? C'est parce qu'en fait, ils sollicitent cette autorisation à l'occasion de la Franche Foire. Donc la Franche Foire, c'était un événement marchand dont on a la première mention au XIIe siècle, et qui était en fait la possibilité qui était faite à l'ensemble des marchands de partout d'Europe, enfin du reste de la France et d'Europe, de venir vendre à Lille et d'être exemptés de taxes, puisque le reste du temps, les marchands lillois avaient le monopole
et voilà,
du commerce.
C'est ça, d'où le terme de franche foire. Hein, voilà. C'est-à-dire que, évidemment, pour vendre à Lille, autrefois, il y avait tout un système, tout ça a été très réglementé, il fallait être lillois, par définition. Et pas au moment de la fameuse foire, où tout le monde pouvait venir vendre avec des exemptions et toutes sortes de privilèges, comme on disait à l'époque.
Voilà, des privilèges. Et c'était également une période, donc cette foire qui avait déjà lieu dans la deuxième quinzaine d'août, parce que c'était la période finalement où il y avait le moins de risques d'inondation, puisque
oui,
la ville au départ était
marécageux.
Encore très marécageuse.
Ah oui.
Donc pendant cette période de la foire qui durait au début 9 jours, et avant et après, personne ne pouvait être arrêté dans la ville de Lille. Il y avait une espèce de... Voilà, ni les commerçants, ni les habitants. Donc il y avait certaines situations vraiment exceptionnelles.
Donc on en profitait. Ça durait combien, une semaine à l'époque?
Ça durait 9 jours.
9 jours, voilà. Oui. Et puis ça, c'est peu à peu, la durée s'est réduite.
La durée s'est réduite au fil des siècles. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas exactement à quel moment L'aspect de vide-grenier s'est développé. On n'a pas trouvé de traces dans les textes. En tout cas, il ne semble pas que ça soit... on parle souvent d'une autorisation qui était faite aux domestiques de vendre les vieilles affaires de leur patron. Ce n'est pas des choses qui apparaissent, en tout cas à cette période-là, probablement plus tard.
Mais ça fait partie de la mémoire orale, tout ça, voilà, mais évidemment, ça on n'en a pas forcément de traces. Cela dit, on peut considérer qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, cette braderie, elle change de nature, Véra Dupuis. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une foire au sens classique, on entre dans quelque chose qui est un événement plus populaire, d'une certaine manière, et peut-être qui concerne moins les professionnels.
Oui, c'est vraiment, je crois, quelque chose lillois, hein, contrairement à ce que vous avez dit, aujourd'hui c'est international. Là, c'est vraiment le valet qui était en vérité l'employé d'un tisserand qui lui aussi commençait à vendre.
Et qui vendait les chutes.
Oui.
C'était ça à l'époque.
Et puis il suffit d'aller à Los Piscontes et regarder le tableau justement du 18e qui s'appelle la braderie où on voit l'étal devant le théâtre autour de la vieille bourse et on voit les marchands, c'est simplement le costume qui change.
Il y a le fameux tableau de Watteau. Ça, il faut parler de ça. C'est une gravure d'ailleurs, je pense au départ.
C'est un tableau, mais effectivement, donc c'est Watteau, pas le plus fameux.
Non, bien sûr, c'est François.
Voilà. Et effectivement, il montre une scène dont c'est la deuxième moitié du 18e. J'ai plus la date exacte en tête, mm-hmm. mais il montre effectivement. Finalement, elle ressemble un peu à cette braderie aussi idéale. Enfin, idéal dans l'esprit de beaucoup de Lillois, c'est-à-dire qu'on voit, c'est des scènes très pittoresques avec plein de gens qui vendent plein de vieux objets, des animaux, etc. Enfin, ça avait un côté effectivement très, très populaire qui après s'est aussi développé au 19e siècle et qui a été abondamment chanté et raconté les chansonniers lillois.
Ce qui est amusant, je découvrais ça en lisant votre ouvrage, c'est que on a voulu reconstituer environ une centaine d'années plus tard, on a voulu reconstituer le tableau en fait.
Oui, hein, donc, ça s'est appelé la braderie Watteau effectivement. Ouais. Et,
1882.
Tout à fait, donc l'ensemble des commerçants étaient appelés à se déguiser en costume d'époque du temps de Watteau pour essayer de reconstituer en quelque sorte la scène du fameux
Alors,
tableau.
Alors, si ça n'avait été qu'une foire devenue une sorte de vide-grenier, etc., je pense que ça aurait pu être un événement local intéressant, mais ça ne serait pas devenu la braderie de Lille. Ce qui a donné ses lettres de noblesse et sa célébrité à l'événement, c'est évidemment l'espèce de basculement qui a lieu vers quelque chose de festif, en fait. On se marie beaucoup à cette époque, ça, il faut le dire, au moment des foires. Hein. Ça, c'est normal, mais en même temps, c'est la belle saison.
Oui, et puis il y avait cette spécificité que la braderie, qui s'est beaucoup développée, enfin, cet aspect festif et vide-grenier s'est beaucoup développé au 19e, parce que Lille avait une importante population ouvrière, et la braderie, à cette époque-là, déjà, avait lieu entre le dimanche soir, minuit et le lundi midi, donc c'était un jour férié. Beaucoup d'ouvriers se mariaient à cette période-là. Et puis il faut aussi voir que l'aspect festif, il était finalement présent un peu dès les origines de la Franche Foire, puisque déjà cette Franche Foire qui se tenait sur l'emplacement actuel de la Grand Place, il y avait des batteleurs et des forains, donc c'était dès les origines.
Donc on fait la fête et la braderie va acquérir pendant tout le cours du 19e siècle une dimension de plus en plus extraordinaire. À quel moment est-ce qu'elle devient un très grand événement d'ampleur nationale, voire internationale? C'est beaucoup plus récent, ça.
C'est beaucoup plus récent, oui. Je pense que c'est...
Après la Seconde Guerre mondiale, non?
Après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que le grand boom a été quand même le début des années 80, quand Pierre Mauroy, maire de Lille, est devenu Premier ministre en 1981. Il a... évidemment, amené à Lille pas mal de journalistes. Et c'est la période où quelqu'un comme l'homme de télévision Jean-Christophe Averty a fait de la pub pour l'événement. Et cet aspect, avant, c'était déjà depuis pas mal de temps. Au début du 19e, il y avait déjà des trains qui venaient du reste de la région, au courant 19e, et de Belgique. Mais après sont venus les Parisiens. Et puis après, ça s'est encore développé. À partir de 1996, c'est la période finalement où il a été acté que la braderie n'avait plus lieu le lundi, mais qu'elle avait lieu le week-end.
Il n'y a plus de lundi de braderie,
Il n'y a plus de lundi de braderie, voilà, sauf pour encore les employés municipaux.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, oui, bien sûr.
Ils travaillent énormément pour remettre toute la ville en état.
Il faut remettre, c'est le brin, comme on dit.
mais à 4h ou 5h du matin, tout est nettoyé. C'est vrai que c'est un exploit tous les ans renouvelé.
Geoffroy Desfresnes, il y a des lieux spécifiques de cette braderie. Il y en a qu'il ne faut pas manquer d'ailleurs, qui ont plus de charme que d'autres peut-être.
Oui, alors moi j'aimais bien le Parc Le Bas justement, ce qui n'était pas le Parc Le Bas mais le Bouvard Le Bas autrefois, où les jeunes Lillois, quand j'avais 20 ans, c'est là qu'on s'installait. On s'est fait un peu expulser par les gros bras des puces parisiennes. Hein. On va demander le retour à la franche foire et interdire aux Parisiens de venir, mais bon. Donc ces gens-là se retrouvent maintenant plutôt sur l'esplanade, hein. les petites brocantes, le côté vide-grenier, plus de ce côté-là, puis bien sûr en bas des maisons, dans les artères. Moi j'aime bien le quartier Saint-Michel, nous on s'installe en face de l'école du journalisme par exemple,
dans le quartier Saint-Michel. L'université, c'est ça ?
Oui, l'ancien quartier latin. Lillois qui redevient un quartier latin, hein, de plus en plus d'ailleurs, parce que les universités reviennent dans ce quartier. Donc il y a ces quartiers-là qui sont sympas, parce qu'après le Boulevard de Liberté, c'est quand même le gros axe où il y a surtout des odeurs de merguez et des fripes. Hein. Voilà, donc il faut trouver les bonnes petites rues qui sont un peu dispersées un peu partout. Puis je vous dis l'esplanade où les gens campent plusieurs jours avant.
Profiter du dimanche matin également où les gens qui sont partis faire la fête ne se sont pas encore réveillés. Ou finalement, dans certains quartiers de Lille, notamment le Vieux-Lille même, les Lillois, j'allais dire les vrais Lillois, non, les Lillois se réapproprient un petit peu leur trottoir, profitent du fait que le trottoir a été délaissé pour véritablement vider leur grenier, vendre les jouets des enfants. Ouais. Et je dirais sur le coup, entre 8h du matin et 11h du matin, il y a vraiment cette petite ambiance pour peu qu'il y ait un rayon de soleil, là, c'est le vrai bonheur, Franck.
La braderie, une histoire lilloise, par Élodie Devrayère. J'ai également cité tout à l'heure les sites de la Première Guerre dans le nord de la France. Ils sont par définition extrêmement nombreux. Certains sont plus méconnus que d'autres. D'ailleurs, ça me donne quelques idées d'émission, cette affaire. Et puis, Lille, quand les objets racontent. Alors là, on est bien dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, de Vera Dupuis. Tout ça, c'est aux éditions Ouest France. J'ai aussi de vous, Vera Dupuis, un petit opuscule sur le Palais des Beaux-Arts.
Oui.
Et alors, je suis ravi de pouvoir le faire. D'abord, c'est bien de parler de votre ouvrage, mais c'est un des plus jolis musées de France. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois à ce micro, mais ça ne fait pas de mal de le redire. Ça aussi, ça vaut le voyage. Et quand on est à une heure de train, je parle pour les Parisiens, mais il y a des gens qui peuvent venir de bien d'autres endroits, évidemment. Oui. Ça vaut tout à fait la peine. Merci à vous trois et merci, entre parenthèses, aux éditions Ouest France d'éditer tous ces ouvrages d'érudition locale.
Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Déborah qui aimerait connaître les origines de l'international composé par un Lillois.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Déborah. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et je la cite. Bonjour Franck, puisque vous êtes à Lille aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur les origines de l'international composé, il me semble, par un Lillois?
Eh oui, Déborah a raison. Alors, elle a raison en partie seulement, car l'international, ce chant aujourd'hui mondialement connu, c'est d'abord un poème du révolutionnaire Eugène Potier. Il le compose, vous savez, au moment de la répression de la Commune, hein, après la semaine sanglante qui s'est déroulée du 21 au 28 mai 1871. Il y a eu cette répression incroyable et Potier va écrire les paroles. À l'époque, on chante ce chant sur un air connu. En l'occurrence, celui de la Marseillaise. Alors, ça donnait « C'est la lutte finale, groupons-nous et demain ». Ça me fait sourire parce que je me dis que si Alexis Corbière est dans les parages, ça doit le faire rire de me voir, moi, chanter l'international sur l'air de la Marseillaise. Mais voilà, tout arrive dans cette émission. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on lui composera une musique particulière. La demande vient de Gustave Delory, qui sera plus tard maire de Lille et qui dirige à l'époque la Fédération du Nord du Parti ouvrier. Il se tourne vers Pierre de Jeter, qui est directeur de la société musicale La Lyre des Travailleurs. Ce fils d'ouvrier travaille lui-même dans l'industrie ferroviaire où il est câbleur. Il est passionné de musique. Il a décidé de suivre des cours du soir à l'Académie de musique. Il a obtenu le premier prix à l'âge de 38 ans et il va donc composer. Le chant sera interprété pour la première fois le 23 juillet 1888, justement par la chorale de la Lyre des Travailleurs. Et évidemment, ce chant, vous le connaissez, on en entend quelques mesures, si vous voulez.